Cazuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
La première chose que je peux vous dire.
Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
Rosen Ginscher.
Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
La première chose que je peux vous dire, il faudra ne pas s'en souvenir. Ça sera un mot nu, comme un bonjour ou quelque chose avec les yeux. Ça sera un geste de la main, une énergie dans la voix. La première chose, c'est toujours une échappée. C'est quelqu'un d'autre, venu de moi, qui le prononce. La première chose, c'est moi tout entière, et je ne le sais pas.
Bonjour, tu t'appelles comment ?
Claire Vie.
Et tu es venue faire quoi ici alors ?
Des ateliers d'écriture.
Oui. Et ça consiste en quoi ? Tu fais quoi, l'atelier d'écriture ?
Ben, j'écris des choses.
Mmh. Sur quoi ?
Sur des choses.
Et puis ?
Ben...
Et là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est ici ?
Parce que je voulais venir.
Et vous avez fait quoi alors ici ?
Ben, on a lu, on a fait un petit truc de théâtre, on a écouté des trucs et on a regardé quelque chose.
Ouais, c'était un petit film de présentation.
Oui.
Mais il y a eu aussi une petite pièce de théâtre finalement à la fin avec un texte que vous avez fait. Ça parlait de quoi ?
Des animaux, d'un voyage. Ouais. Des animaux qui retrouvent leur corps.
Et est-ce que c'était difficile ou c'était plutôt drôle de venir ?
C'était drôle.
Allez, on va écouter Mallory.
Je suis venue ici pour écrire. Avant, on avait fait un texte. On devait trouver une lettre et on devait faire un texte.
C'est toi qui choisissais ?
On choisissait, mais avec la lettre.
Après, il faut trouver des mots qui correspondent à la lettre, c'est ça ?
Oui.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venue faire ?
Là, c'est... Je suis venue regarder d'autres gens. Mmh. Et on a fait un petit spectacle avec des marionnettes. Et ça parlait avec des animaux. Et il y en a deux qui ont changé leur corps.
Et les textes que tu as lus, est-ce que c'était les textes que tu avais écrits ?
Non.
Alors c'était les textes de tes collègues, c'est ça ?
Mmh.
Et pour toi aussi, est-ce que c'était plutôt rigolo ou plutôt triste de venir ?
Rigolo. Ah,
très bien, ben, je te remercie.
Voilà, c'était un petit reportage de Radio Zinzine avec Christophe André au micro. Bonjour Rosen.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on a entendu là ? C'est la sortie d'un atelier d'écriture que tu as mené ?
C'est un peu plus que ça, parce que c'est des enfants de 6-8 ans qui font des ateliers d'écriture que j'anime à Gardanne avec l'association L'Aparté. J'interviens à la médiathèque de Gardanne. Mmh. Et en fait, j'adore emmener les gens qui écrivent à lire des textes. Et du coup, on avait fait au milieu d'année, j'aimais tellement les textes qu'ils écrivaient que... J'avais dit non, mais il faut que ça s'entende. Et ouais. En fait, du coup, j'ai rassemblé ces enfants des ateliers d'écriture et les adultes de mes ateliers également à venir sur cette même après-midi, un samedi, ouais. Venir lire des ouais. textes.
On entendra les adultes tout à l'heure, je pense.
Ouais.
Et alors, c'est intéressant parce que là, c'est effectivement une pratique d'écriture, mais on entend qu'il y a aussi du jeu, on entend qu'il y a aussi un travail avec peut-être des mises en scène. Tu manies, tu as été enseignante, médiatrice culturelle, tu es écrivain, comédienne, clown, tu animes, ça fait beaucoup d'activités et j'aimerais bien que tu nous décrives un petit peu ces activités. Est-ce qu'elles sont très séparées pour toi ? Est-ce qu'elles l'étaient, qu'elles le sont moins peut-être aujourd'hui ? Comment ça se passe ?
Je pense qu'effectivement, avant, c'est un peu bizarre de dire ça, on ne sait pas quel avant, mais...
Avant cette émission-là, bien avant.
Avant et après. Je pense que l'écriture, et d'abord, j'étais une grande lectrice et c'était un refuge. J'ai commencé à écrire un peu dans ça, c'est-à-dire comme un territoire qui protège, en fait, ou qui est un espèce d'espace vital qui n'est pas très poreux par rapport au monde. Et puis, de plus en plus, et en même temps, en parallèle, je suis toujours allée dans le monde avec des publics. J'ai été médiatrice, j'ai enseigné. Donc, je suis toujours allée chercher les gens.
Dans le monde, c'est surprenant. C'est comme si tu étais globe-trotteur.
Comme si j'y étais... C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'y suis pas dedans.
Ouais.
Et du coup, maintenant, je me rends compte que tout est très lié. Donc, avant, je peignais un peu dans mon coin. Je travaille plutôt des angles, beaucoup d'eau, des choses qui échappent un peu. J'écrivais, mais je publiais pas, ou je n'ai pas cherché plus que ça, voilà. Et puis à un moment, je suis passée, mon premier livre, il est sorti en 2009, donc c'est, ça fait un moment, mais en même temps...
C'était La fille dévastée.
Oui. Mmh. Et à un moment, ça a pu se lier, c'était beaucoup moins une vision agressive du monde, ou quelque chose comme ça. Et maintenant, actuellement, c'est vrai que je me rends compte que tout se mêle... Tout se nourrit, en fait, parce que à la fois je donne dans le monde. Donc, par exemple, pour moi, il y a un moment maintenant, c'est plus possible de juste écrire, d'amener les gens à l'écriture sans qu'il y ait cette chose qui doit. Pourquoi l'écriture ne peut pas se voir? Pourquoi on ne peut pas l'entendre? Comme une espèce de frustration que ça reste. Comme si il manquait un morceau. Et donc, je les amène à lire en public et tout, ces gens. Hein,
ouais.
C'est pas... Mais ils vont parce que. Parce que j'y crois, parce que j'ai envie, parce que... Donc, je les embarque. Puis, des fois, je leur dis, bah, c'est pas grave, moi, je vais lire tout seul vos livres, vos textes.
Vos textes. du coup, j'ai aussi l'impression que ce qui est important pour toi, c'est effectivement d'être dans le monde, d'amener les gens à voir que l'écriture est aussi quelque chose de matériel, peut-être de physique, peut-être. Tu parles de la voix, c'est aussi du corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'importe, justement, de cette présence physique dans tout ce que tu réalises et dans ce que tu amènes aussi essayer en tout cas d'amener les gens à réaliser.
Moi, je suis vraiment aussi par rapport à mon écriture à moi dans des questions de lecture et de transmission de ça. Après, c'est vrai que je sais pas tout. En fait, quand tu me poses des questions, je réfléchis en même temps parce que c'est vrai qu'il y a une part qui est. Je sais pas pourquoi je fais tout ça.
Oui.
Non, mais du coup, je suis allée vers le clown et j'adore les clowns muets. Et à la fois, là, je suis en train de m'écrire un spectacle de clown avec du texte, et à la fois, j'ai envie. Enfin, voilà. Mais je sais pas trop. Et effectivement, il y a du corps et du regard et de la représentation. Et comment on peut. Les mots sont enfermés dans des livres, en fait. Ça me fait un peu ça. C'est beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que j'ai envie que les mots aillent vers les gens. Oui. Les mots. Qu'on découvre en soi.
C'est ouvrir une boîte un peu. Le livre, c'est un peu comme une boîte fermée. Et puis, de temps en temps, il faut essayer d'amener les mots ailleurs.
Ouais, il y a une liberté. Parce que, en fait, on parle du clown, mais il y a ce rapport-là à l'improvisation, à l'écriture. On ne sait pas avant d'avoir pris notre feuille ce qu'on va écrire. Enfin, moi, et dans la peinture, je suis comme ça. Et dans le clown, je suis beaucoup comme ça. Dès qu'on me sert trop, je suis pas bonne, en fait.
Ouais.
Je suis bien dans cette espèce de chose qui est en train de se fabriquer. On parlait tout à l'heure de fabrication, de bricolage. On ne sait pas. Oui, voilà, comment on peut y aller dans cette espèce de petit bricolage.
Ouais.
Donc, je ne sais pas tout à fait ce que je bricole, en fait. Donc, les gens, ils ont une grande confiance parce que je les emmène lire et tout. Je dis non, il n'y aura pas personne. Il y en a 80. Et les dames de mes ateliers, elles me disent, Rosane, quand même, on n'est pas inscrit au théâtre. On est inscrit, on vient pour écrire.
Oui.
Je dis oui, mais quand même. Et en fait, il y a tout un truc. Ouais. Et puis, elles en prennent goût. Et puis, elles se rendent compte qu'un texte tout seul n'existe pas. Comment on va le dire? On va le donner vraiment avec tous les silences. En fait, écrire, c'est aussi du son, du bruit, des choses, ça veut dire quelque chose. Et puis des fois, c'est tous les espaces inoccupés, en fait, les respirations.
On va écouter un deuxième extrait qui avait aussi été enregistré pour Radio Zinzine, avec qui on travaille régulièrement à Grenouille. Et là, cette fois-ci, il y a des adultes qu'on va écouter, et des réactions d'adultes.
Un spectacle, c'est un bien grand mot. C'était une restitution des ateliers d'écriture enfants et adultes de l'association Aparté.
Parler de soi et arriver à affirmer ça à travers l'écriture, ça ne va pas être évident non plus.
Non.
On n'est pas obligé de parler de soi, on peut un peu inventer, on invente surtout. Bien sûr, on n'est pas obligé de se mettre à nu dans nos textes.
Personne ne le sait, si on parle
de soi. On crée, surtout les textes que nous avons lus, ce n'était pas les nôtres. Donc chacun a essayé de choisir le texte de quelqu'un d'autre pour pouvoir...
Plus détaché.
C'est-à-dire que déjà le texte, on ne sait pas vraiment si la personne a écrit sur elle, mais en plus le fait qu'il ait été lu par quelqu'un d'autre, ça brouille encore plus les cartes. Il y avait beaucoup de créativité, j'ai trouvé de l'imaginaire, des drôleries. C'était un moteur, ce côté.
Alors ça, c'était un thème particulier qu'elle avait intitulé « Au pays imaginaire ». Et en fait, les textes, ils ont été écrits à partir de choses piochées. On a tous écrit un certain nombre de personnages imaginaires, un certain nombre de lieux imaginaires,
d'objets.
Et après, on a pioché tout ça. Et la consigne, c'était d'écrire une histoire avec ces noms et ces objets piochés. C'est pour ça que ça vous a donné des tortues à pois verts,
des gendarmes, toutes ces choses-là.
D'accord. Mais en fait, ça, c'était plus un prétexte pour écrire. Maintenant, quelle est la motivation de l'écriture, votre motivation vous, personnelle, de venir sur un atelier d'écriture?
Avant tout, c'est se faire plaisir, pouvoir s'amuser avec les mots. C'est toutes ces choses-là. C'est aussi une partie de soi, peut-être un peu travestie, bien sûr, qui s'exprime. Mais c'est vrai qu'avant tout, c'est se faire plaisir, même si on tâtonne, même si on ne sait pas. Moi, c'est la première année, je sais très peu écrire, et je me suis dit, tant pis, je me lance, et je me suis fait plaisir quand même. Voilà. Je crois que le but, c'est ça, se faire plaisir avant tout.
Se dépasser un petit peu, c'est oser le faire. L'écriture, ce n'est pas que destiné aux écrivains, c'est à tous.
C'est libérateur, quelque part.
Oui.
Ça détend, ça permet de... de coucher sur la page des choses qu'on ne peut pas dire tout haut toute la journée. Là, c'est autorisé sous formes diverses et variées.
Oui, même sous forme d'humour, ça peut être aussi. Ça peut aider d'être dans l'humour.
Sous forme d'humour. Ça peut être une thérapie, quelque part aussi, pour exprimer ce qu'on a envie de dire, qu'on ne peut pas dire. Voilà. On s'amuse bien, en tout cas.
Oui, je crois que c'est le fin mot de l'histoire, c'est que je vous ai vu très, très joyeuse. Il n'y avait pas d'homme. Là, du coup, la parité, elle n'a pas été respectée.
Hein. Il n'y a jamais.
Ils ne savent pas écrire, en fait.
Mais dans les activités, c'est vrai que les activités que je fais, moi, au niveau de la peinture, de la gym, tout ça, il n'y a pas d'hommes. Ou tout au moins, ils sont en minorité par rapport aux femmes.
Ils sont plus pudiques que nous. Ils s'expriment pas.
Ils
s'expriment derrière un ballon.
En tout cas, vous nous avez bien amusés. C'était très agréable. Je vous remercie.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Voilà, des voix de femmes, donc, et un homme qui les interroge, puisque lui n'a pas écrit. Ça manque apparemment dans ces ateliers, quels qu'ils soient. Alors, le principe de cette émission, la première chose que je peux vous dire, qui est une revue radiophonique, c'est de reprendre et d'être en parallèle avec la revue papier que nous publions la Marelle, en invitant les auteurs qui sont en résidence. En fait, Rosane Guichert, tu étais en résidence en mars et avril 2016, donc c'est pas actuellement en mars 2017, mais on avait envie de te réinviter puisque à ce moment-là, en 2016, l'émission n'existait pas encore, donc pour rattraper en quelque sorte ça. Et puis peut-être pour voir aussi où en est ce projet d'écriture qui s'intitule « Cœur éphémère », un roman poétique que tu avais en phase de création à ce moment-là en résidence. Donc On va évoquer ce travail pour voir où ça en est. Et puis, on va aussi, peu à peu, entrer dans le dispositif de cette revue radiophonique, c'est-à-dire un petit jeu de questions-réponses et puis un temps assez long de lecture, justement, d'une des nouvelles que tu viens de faire paraître. Mais peut-être un tout petit mot, un an après, ce projet Cœur éphémère, est-ce que ça a avancé ou est-ce que tu en es? Tu as le droit de dire non, hein. Personne ne te demandera.
Oui, ça a avancé. En fait, avec toutes mes activités, c'est vrai que je dois définir des espaces d'écriture. Donc, c'est pas évident. Il y a des moments où. Mmh. Voilà. Et puis, en fait, je suis quelqu'un de très. Comment dire? La vie m'appelle et l'écriture est une espèce de rivière chez moi. Donc en fait, à chaque fois que je rencontre des gens, on est sur « Ah, j'ai une idée. Ah ouais. » J'ai rencontré l'autre fois une petite fille presque mutique à un atelier, par exemple. Et c'est un roman qui arrive. Ouais. Et alors, c'est con. Voilà. Donc, Cœur éphémère n'est pas oublié. C'est comme la pile de livres à côté de ton lit. C'est-à-dire que j'écris aussi dans des cahiers qui sont... J'ai pas un cahier que pour Cœur éphémère. Donc, Cœur éphémère, Alors, je l'ai nommé roman poétique et je me suis demandé si ça devenait pas du théâtre. Parce qu'avec mon envie que les choses s'entendent, il y a beaucoup de textes que j'écris qui sont finalement aussi des monologues intérieurs qui pourraient très bien être joués. Et donc, voilà. Être donc, ça a beaucoup évolué sur ces questions. Finalement de définition, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? J'en sais rien encore. Donc j'avance doucement avec d'autres choses où je me dis, ah non, ça c'est pas pour Cœur éphémère. Donc j'ai une espèce d'écriture globale dans des cahiers et après je dis, oh, ah ça c'est pour celui-là. Et j'ai plusieurs petits bébés en cours de route là. Un peu comme ça.
Ouais. Alors, on reparlera dans quelques instants de Cœur éphémère et du projet initial, peut-être. On verra comment il a évolué. Mais avant, je voudrais que tu nous commentes aussi un son que tu as choisi pour cette émission, qui est un morceau d'Agnès Obel, qui s'intitule « Falling Coaching », qu'on peut trouver sur le disque Philharmonix et qu'on va écouter de suite. Falling Coaching d'Agnès Obel, c'est un morceau qui joue sur la ritournelle et sur la répétition. Et toi, tu passes ça en boucle en plus.
Ouais. J'ai deux filles qui me disent « Maman, tu peux pas enlever ta musique ?» Parce que en fait, j'ai des périodes, j'ai des univers qui sont effectivement parfois des supports d'écriture, des ambiances et... Voilà, ouais. Je suis très comme ça.
Donc tu écoutes ça et tu écris en même temps?
Oui, je peux. Pas forcément, mais c'est que je cuisine avec. Je... Ouais. Voilà, je vis avec.
Tu vis avec. C'est presque du Satie d'ailleurs, ça. Tu écoutes Satie aussi.
Oui. Ouais. Et je me rends compte, je suis beaucoup soit sur des espaces de piano comme ça, beaucoup de voix aussi de femmes. Et puis une certaine douceur, une certaine... des suspensions, des choses. Ça me fait penser tout de suite, moi, à la nature aussi. À... Voilà.
Alors moi, ça me fait penser à cet intitulé de roman poétique, justement, que tu avais choisi pour Cœur éphémère. Et j'aimerais bien que tu nous expliques, même si ça va peut-être aller plus vers le théâtre que, pour la, que vers la poésie, mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles, le point de départ narratif, je dirais, de ce roman.
Cœur éphémère, ben, ça parle d'une adolescente... en quête d'elle et surtout d'un père qui a disparu un moment et en fait elle est dans des espèces d'errance, donc l'idée c'était de pour moi aller travailler sur deux villes portuaires, des grosses villes qui sont Marseille et Brest, puisque je viens de Brest.
Oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure quand, tu, quand je t'ai présenté rapidement.
Donc j'ai grandi là-bas et j'ai vécu jusqu'à mes 27 ans en Bretagne, donc je suis très bretonne. Et sur Marseille, qui est une ville qui... C'est pour ça que je souhaitais venir aussi en résidence, parce que c'est une ville qui m'a toujours... fait peur. Même aujourd'hui, je suis venue en voiture. Je me dis, bon, alors, t'as bien vu...
Oui, parce que tu habites à Aix-en-Provence. Ouais, tu n'étais pas, très loin non plus.
Non, mais je me dis, ah, t'as bien vu la route et tout. Et puis, ah mince, eh ben, s'il y a des travaux, comment tu vas faire? Sur... Et donc, en fait, cette ado... Et l'idée, c'était de travailler aussi sur des villes, pardon, qui sont tellement grosses, des fois, qu'on ne pourrait même pas voir qu'il y a la mer. Qu'on a, on a l'impression qu'on voudrait s'élever. Mmh. Et surtout Marseille, avec des immeubles, des choses au bord de l'autoroute, des gens. Enfin, c'était à la fois cette espèce de mon regard sur les gens qui sont des rondeurs, des choses sucrées comme des fleurs, qui seraient sur l'autoroute, quoi. Et que, voilà, c'est, en fait, c'est plein de questions. Hein. Et donc, cette ado, pour moi, dans le roman, elle va aller jusqu'en Bretagne. Elle va prendre un train. Donc, elle regarde beaucoup les trains. Et c'était très intéressant pour moi, la résidence, puisqu'on est au bord d'une voie ferrée. Et quand je suis venue aujourd'hui, j'ai réentendu le train. Et ça m'a fait un souvenir de ce temps de résidence qui était super, de s'installer à la Marelle pour écrire... Et donc voilà. Et donc c'est une femme qui, une adolescente qui va croiser, qui va rencontrer une grand-mère qui vient tous les jours sur le même banc, qui va. Donc c'est aussi cœur éphémère. C'est peut-être le sien. Ça pourrait être les petits battements. Ça me fait penser aux gens qu'on croise dans la rue. Des fois, on croise un regard, on croise un sourire. On repart avec ces choses, les petites bricoles des gens. Mais qui peuvent nous faire du bien, en fait, qui sont des inconnus. Donc, c'est aussi comme ça, quelque chose d'éphémère, comme cette musique qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une petite lumière, des choses que l'écriture voudrait saisir, qui sont des choses tellement infimes, vivantes, qu'on ne saisit pas, en fait. Donc, c'est pas de dire on n'arrivera pas à le faire, mais...
C'est voilà. D'arriver à trouver comment les saisir et... Comment transmettre une petite partie de ces moments insaisissables. Ton éditeur, tu es publié aux éditions Sud-Hiver pour tous tes livres, et ton éditeur, c'est André Bonmort, dit de tes nouvelles qui viennent de sortir donc aux éditions Sud-Hiver, dont le titre général de ces nouvelles, c'est « Déshabiller nos solitudes », que sont des nouvelles impressionnistes pour dire la fragilité du vivre ensemble, la fragilité d'être aussi parfois. De ces moments-là, tu serais assez d'accord avec ce terme d'impressionniste?
Oui, parce que je pense qu'il y a... Enfin, on me l'a dit souvent, je ne l'ai pas vu quand je l'ai... J'écris plutôt comme une musique, moi, que comme... Mais souvent, on me dit, on dirait un tableau, on dirait qu'il y a des touches, c'est comme, effectivement, plein de petites touches, et après, on voit ce que ça... On ne voit pas tout de suite ce que ça dessine.
Il faut s'écarter un peu, s'éloigner un peu.
C'est peut-être la question de la poésie, ça aussi, je ne sais pas... En tout cas, je pense que ce que je veux aller, ce qui m'importe, c'est des questions autour desquelles je tourne. Hein. Je ne réponds pas forcément toujours à mes questions, mais ça, ça peut pas s'attraper par un truc raisonnable, logique. C'est pour ça qu'au fond, cœur éphémère, je sais pas ce que c'est. Je sais que ça raconte globalement ça. Je sais pas encore la fin. Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a des petites touches. Et moi-même, je vais... Ce que le lecteur lit, à un moment, je suis allée faire ce même chemin. Oui. Je n'ai pas fabriqué des tâches pour dire, OK, là, je vais mettre trois tâches marron et ça va faire un arbre. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça pose et à un moment, tiens, ça se tient. Et effectivement, tiens, je me rends compte aussi avoir pris un peu de hauteur ou de recul et de me dire, ah, c'est ça que ça dit, en fait. Ouais. Et je ne sais pas tout ce que ça dit, parce que des fois, les gens apportent aussi du sens en disant, ah oh, oui, quand vous avez écrit ça, moi, ça m'a fait penser à ça. Je dis, ah ouais, ben, c'est peut-être ça que j'ai écrit. Hein. Mais c'est vrai, il y a aussi ce travail sur cette chose insaisissable, inconsciente. Je ne crois pas. Moi, je ne sais pas ce que j'écris, en fait. Ouais.
Avec le lecteur comme miroir, parfois, de temps en temps.
Ouais.
Oula, ou...
Et c'est pour ça qu'aussi les rencontres, les lectures, elles sont importantes. Mmh. Parce que c'est pas juste je donne des choses aux gens, c'est que tout ce qui me donne aussi d'insu, d'une nouvelle, un autre regard sur des textes, tiens, ah ouais, ça leur fait ça. Un texte que je trouve grave, bah, des fois, ils le trouvent drôle, tu vois, et ça, c'est riche, quoi. Ouais.
Alors tout à l'heure, tu disais que bon, ça, j'écris ça, mais ça, c'est pas pour cœur éphémère, je le mets de côté. Est-ce qu'une partie des choses que tu mets de côté donne justement ces nouvelles ? J'ai parlé de ce recueil Déshabiller nos solitudes, dont les titres sont des petites histoires à chaque fois. Hein. Par exemple, tu sais, un jour j'ai eu deux cœurs. Ce qui a été emporté ne reviendra pas. Nos géographies abîmées. L'être à celui du ciel et de la terre, ça, à chaque fois, ça raconte une petite histoire, un petit bout d'histoire. Est-ce que ça fonctionne comme ça, ou est-ce que tu envisages dès le départ un recueil Mais j'imagine que non, parce que si tu travailles pas le roman comme ça, j'imagine que le recueil de nouvelles encore moins. Mais est-ce que petit à petit, il se construit quand même un univers qui fait, ah oui, ces nouvelles-là, je peux les rassembler et ça donne un livre qui se tient.
Oui, enfin, déjà, si tu veux, c'est très fragmentaire et qu'à un moment, je vois que ça compose quelque chose et qu'il faut que j'aille m'atteler à ça. Donc, du coup, ces fragments-là, je me dis, oh, ben voilà, qu'est-ce que je vais en faire ? Et là, y a une écriture qui part, qui est un peu plus focalisée, on va dire. Et ça va donner une nouvelle, effectivement. Et à un moment... Moi, j'ai une certaine liberté. Je garde ma liberté, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand tu as publié un premier livre, tu pourrais ne plus écrire pareil, parce que tu pourrais écrire en te disant « je vais publier un autre livre, ça c'est un livre, et qu'est-ce que les gens ils veulent lire ?» Et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je garde cette liberté première qui était « mais moi j'écris des textes, je ne sais pas ce que c'est, et peut-être ça ne fera pas de livre ». Peut-être que ça ne fera pas une nouvelle entière. Peut-être que... bon, en général, je termine les choses. Mais... Et donc, c'est garder cette liberté, cette naïveté première qui serait je continue à écrire sans idée de la publication et,
et
on
de la
verra.
Forme définitive.
Et à un moment, même mon éditeur, on a échangé. Je travaille très, très bien avec cet éditeur et c'est vraiment l'éditeur...
idéal,
tu vois, de
pour
rêve,
toi,
de rêve, tu vois, respectueux, tout ça. Donc, on a des échanges. Et je lui disais, il y avait d'autres nouvelles qui devaient intégrer ce recueil, Déshabiller nos solitudes. Et je lui ai dit à un moment, mais André, on voit, moi, je vois, je sens, et je vois, parce que je suis beaucoup dans ce rapport instinctif aussi, ça ne rentre pas. Il me dit, mais comment on va faire ? Je lui dis, c'est pas grave, André, ça fera un autre recueil, un autre jour. Peut-être ça va donner lieu, parce que c'était un peu plus futuriste, c'était un peu... Et je dis non, je trouve pas que... Donc l'idée aussi, quand la composition d'un recueil, pour moi, est importante, parce que je ne mets pas tous les textes que j'ai.
Oui.
J'ai besoin que ça soit de la résonance, que ça soit comme Futura, qui est un recueil précédent.
Oui.
On était sur des questions d'une extrapolation de notre société, voilà, une vision un peu futuriste des choses. Et donc, certaines de nouvelles qui sont dans maintenant Déshabiller nos solitudes ne pouvaient pas s'intégrer, enfin, tu vois, pour moi. Donc, on est dans ça.
C'est un jeu de construction et, et d'instant aussi. J'imagine que ça correspond à un moment précis de ton travail, de ta vie. Alors, dans Déshabiller nos solitudes, il y a une nouvelle intitulée Le Paradis que tu as reprise et que tu avais que tu nous avais donné pour la revue, pour la publication dans la revue. Et on va écouter à présent un large extrait de cette nouvelle avec un montage que tu as réalisé. Et puis, du coup, avec une manière de lire qui rend les choses aussi, il me semble, assez proche de ce que tu as dit tout à l'heure. Ça sort les mots du livre ou de la page ou de la revue. Là, on va t'écouter.
Le paradis. Mamie, elle l'a dit. Elle l'a dit plein de fois. Cette porte, tu ne dois pas l'ouvrir. Et moi, j'écoute mamie. Alors je joue. Je cours. C'est quand même grand, c'est un jardin. Il y a beaucoup d'herbes et un coin à l'ombre, un coin à cailloux. Alors je joue. Tu sais, la porte, elle n'est pas toute seule. Ça n'existe pas, une porte toute seule. Ça n'existe pas. La porte, pour qu'elle existe, il doit y avoir un mur. Et alors, elle n'est pas toute seule, car il y a des pierres. Et entre les pierres pousse une plante spéciale. On ne sait pas ce qu'elle fait là. Une plante avec des fleurs violettes, comme des clochettes. Un jour, j'ai fait le tour du mur et j'ai compté les plantes. Et il y en avait 32. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oh, ça m'a fatiguée. Alors je suis rentrée. Sur la plante du mur, il y a des fourmis. Elles se promènent. Parfois une abeille qui repart dans un ciel derrière le mur, après la porte. La porte, elle est bleue comme un ciel. Mais non, ce n'est pas pareil. La porte, je ne l'ouvre pas, j'écoute mamie. Ma main y va parfois. Et puis mon œil. C'est un trou tout petit, mais quand même. Un trou, oui, un trou de fourmi, et pas tellement un trou d'œil. On n'y voit rien. Dans le bleu de ma porte, il y a du bleu aussi, un bleu de derrière les choses, et du vert aussi. Tu sais, moi, je suis encore petite. J'ai un œil de fourmi. Donc, je t'explique. C'est le jardin de mamie derrière la maison. Le mur fait tout le tour, et dans le mur, au milieu, une porte. Bleu. Il y a beaucoup d'herbes, car mamie n'utilise plus la tondeuse. C'est bien. C'est haut. On peut se laisser tomber dedans, on ne se fait pas mal, et on regarde les branches de pommiers et le ciel, tous ces nuages. Ah oui, je ne t'ai pas dit, mamie, elle a 3 pommiers. Je t'explique. Un jour, j'ai compté 53 pas pour le mur de droite et 29 pas pour le mur d'en face, le mur de la porte, et 50 pas pour le mur de gauche. La droite, c'est vers la main où tu écris. Le coin des cailloux, il est à gauche, et moi je joue. J'ai une poupée et des morceaux de bois. Parfois, je prends la brouette. Mamie me garde pendant les vacances. C'est un peu long. Je ne peux pas téléphoner à maman ni à papa. Mamie, elle a dit, interdit. C'est que mamie, elle ne parle pas beaucoup. Elle répète ses phrases, mais parler vraiment, non. Moi, de toute façon, j'ai une porte et elle me parle, ma porte. Maintenant, je sais l'écouter. Je ne fais pas de bruit, je joue au silence. Je pose ma main et mon oreille. De l'autre côté, très loin, comme des vagues et des rires. Et puis aussi plus loin, des moteurs. Ce jour-là, mamie, elle a vraiment dit beaucoup de mots. Qu'est-ce que tu cherches, hein? Tu crois que dehors c'est mieux qu'ici? Qu'est-ce que tu peux savoir du dehors, hein? Regarde, ici c'est le paradis. Il n'y a rien de mieux derrière cette porte. Il n'y a rien de bien derrière. Ce jour-là... Beaucoup de mots. Mamie, elle se trompe. Après le bleu et les trous de fourmis pour les yeux, il y a des odeurs. Cachées là-bas, interdites, elles traversent le ciel de ma porte et arrivent jusqu'à l'herbe du paradis. C'est l'odeur d'une crème que l'on met sur le corps. Et puis aussi l'odeur de viande grillée. J'entends les vagues, les rires, les moteurs. J'écoute mamie qui ne dit plus rien. Cette porte, tu ne dois pas l'ouvrir. Alors je regarde. Ce ne sont plus des yeux de fourmis, non. Ce sont des yeux qui ont faim et qui attendent que quelqu'un pousse la porte bleue. J'ai trouvé une coccinelle. Oh, elle s'ennuyait, alors j'ai récolté d'autres coccinelles. Je leur ai donné des noms, mais après, je ne savais plus. Tu comptes les points sur leur dos. Après, je ne savais plus. Sauf Caroline, elle est plus grosse que les autres. Le jeu des coccinelles, c'est de les mettre toutes sur ton bras et de les laisser marcher. Ça chatouille. Oh, j'en ai 5. Oh, j'en ai écrasé une. J'en ai 4. Les coccinelles, quand elles veulent, elles s'envolent. Elles sont libres. Elles peuvent même aller après la porte. J'imagine qu'elles se posent sur une herbe rase et dodue. J'imagine de l'eau à boire, du vent. Une maison et 3 murs, ça refuse le vent. Mais là-bas, sûrement, il y a du vent. Un vent de coccinelle. Quand je rentre dans la maison, c'est noir. Mes yeux doivent s'habituer. On ne peut pas allumer les lampes. C'est interdit. Alors je reste au bord de la porte. Je suis à la frontière entre le paradis et sa lumière derrière, entre la nuit et ses ombres devant. Les volets de mamie sont sérieux. Ils restent clos toujours. Je suis à la frontière entre bourdonnement et silence. Mes yeux doivent s'habituer. Alors, je vois le corps de mamie sur le canapé. Il monte et il descend lentement. Quand elle dort, mamie ne fait pas de bruit. Elle dort de plus en plus. Je t'explique. Une porte, ça s'ouvre et ça se ferme. Enfin, normalement. Mais là, je voyais bien que ce n'était pas normal. Une porte, il y a devant et derrière. Et moi, je suis devant ou derrière la porte. Je viens voir si le corps de mamie monte et descend sur le canapé. Quand j'ai bien vu, je retourne au paradis. Je m'allonge et je m'amuse à gonfler mon ventre très haut, comme s'il y avait un bébé dedans. Je mets mes mains pour mieux voir. Mon ventre, maintenant, il est plus petit. C'est depuis que mamie dort. On ne mange plus. Au paradis, tu sais, c'est simple. Tu t'allonges dans l'herbe entre deux portes. Tu regardes les nuages et le voyage du vent, si haut, si loin. Le ciel est carré, cubique. C'est simple. Cela suffit. Tu respires fort pour manger du bleu. Tu restes longtemps entre deux portes. Le ciel, le vent loin, tu ne sens plus ton corps. Tu n'as plus faim. Ce jour-là, il n'y avait plus de porte. Je suis restée au milieu du paradis, dans son herbe verte. À la place de la porte, que les gendarmes venaient de casser, il y avait maman. Maman, elle pleurait. Il y avait un buisson de fleurs. Je ne connais pas son nom. Il y avait aussi derrière les choses et les gens pressés, la mer et du sable, beaucoup. J'ai reconnu les vagues, les rires et les moteurs de voitures. Dans mon ciel, un cerf-volant multicolore. Je ne savais pas que les cerfs-volants pouvaient voler si haut. Donc, je t'explique. Ils en ont parlé à la radio. C'était long, tu sais, de vivre dans l'air du paradis avec le silence de mamie et mes yeux qui avaient faim. C'était long. Interdit de téléphoner à maman, à papa, mon mur, 53 pas, 29 pas, 50 pas, mon tas de cailloux, ma porte bleue, mes 32 plantes, mes fourmis, mes 3 pommiers, ma poupée, mes bouts de bois, ma brouette, mes 4 coccinelles, mon ciel et tous ces nuages. À la radio, ils ont dit que mamie, elle n'avait plus toute sa tête. Vraiment, enlever sa petite fille, quelle idée! Et se cloîtrer avec elle. Surtout qu'elle n'avait plus rien à manger. Pff, quelle idée! et qu'à la fin, heureusement que les gendarmes sont arrivés.
C'était un large extrait de Le Paradis, avec un point d'interrogation, de et par Rosane Guilcher, une nouvelle qu'on peut lire intégralement dans la revue La Première Chose que je peux vous dire, qu'on a publiée à la Marelle, et qu'on retrouve dans ce recueil publié aux éditions Suiver, Déshabiller nos solitudes.
Got a shigak di go go. Ya got a shigari diva. Got a shigak di go go. Got a shigari diva.
Suoiva, morceau d'ombre, on pourrait traduire ça comme ça, de Marie Boine ou Marie Boine Persen, peut-être que vous la connaissez sous ce nom, cette artiste d'origine sami, norvégienne, qui se réapproprie les traditions ancestrales sami, le chant de gorge, le joïque, le tambour chamanique. On est avec ce morceau Suivia qu'on peut trouver sur un album qui s'appelle Ija Jezas, In the Heart of the Night, dans la main de la nuit, tout ça sans garantir la prononciation, ni en français, ni en norvégien, ni en anglais d'ailleurs. C'est un morceau que tu avais envie qu'on entende aussi, Rosen, tu avais envie d'avoir un peu de voix, pas seulement du piano comme on a entendu tout à l'heure.
Oui,
et ce voix très, cette voix très, qui a une présence physique aussi très importante.
Oui, puis ça m'est arrivé d'écrire sur... ça fait partie de mes boucles, mes ambiances, mes univers. Mais on dit bien qu'un peintre a des périodes. Donc moi, j'ai des périodes où je me mets dans une ambiance particulière avec un album. Et c'est vrai que je vis... Enfin, j'écris, mais pas que. Je vis avec, quoi.
On est passé de cette voix qui vient du paradis à la chamane qui nous permet d'aller peut-être vers les morts, vers les disparus, ou en tout cas vers un autre univers, un autre état de conscience. C'est peut-être pas par hasard non plus que tu as choisi un morceau tel que celui-ci.
Non, après, en ce moment, je suis beaucoup... c'est ma période aussi de... questionnement sur notre place, sur notre rapport au monde. La question du monde, pour moi, ma place dans le monde, particulièrement, et c'est ma question de ma vie, quoi, je crois. Et du coup, maintenant, j'ai presque l'impression que qu'il y a presque un jaillissement de contact avec le monde, pour moi, par l'écriture, le clou, machin, mais comme si le monde aussi accueillait ça, enfin, tu vois.
Tout s'ouvre.
Oui, j'ai l'impression de ça, ouais.
Alors, très bien. La place dans le monde, ça nous permet de nous raccrocher à ce petit jeu de questions-réponses proposé dans la revue. Et une des questions, c'est pour toi, de nous donner un holoé, c'est-à-dire, d'après le mot inventé par Anne Savelli, un endroit où lire ou écrire. Et tu as répondu à cette question.
Je crois, il y a un an, mais tu as répondu. Mais je pense que j'ai répondu partout.
Exactement.
Parce que moi, j'écris partout, en fait. J'ai une espèce d'écriture là, maintenant. Si j'ouvre mon cahier et je prends un stylo, des choses viennent. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est hors de la volonté. D'ailleurs, c'est une recherche que j'ai parce que je peux être très cérébrale aussi. Et ma vie de maman, parce que j'ai deux enfants de 8 et 11 ans, a fait que quand on a un enfant très jeune, que j'ai souhaité que de pas regarder l'enfant comme un empêchement, même s'il y a eu des moments où c'était compliqué de mêler cette vie, cette écriture très très forte qui m'appelait vraiment, et il y avait cet enfant aussi qui m'appelait, et puis après le deuxième, et la vie et l'école, et qu'un auteur, c'est quelqu'un qui doit faire ses courses, qui va chez le dentiste. C'est ça. Donc, on a souvent... Donc, en fait, je suis très, très adaptée, parce que où que je sois... Et quand les gens... Même quand les gens sont en retard, j'ai dit « Oh, c'est pas grave. »
Ça tombe bien.
Je vais écrire, Donc, même 10 minutes en train d'attendre quelqu'un, où je regarde. Et j'écris vraiment, mais partout, quoi.
Écrire partout, y compris dans l'attente des autres, en retard, heureusement, presque. Autre question, un auteur fétiche, et pourquoi ? Est-ce qu'il y a un auteur fétiche ? C'est pas forcément, tout le monde n'en a pas, ou ne veut pas en avoir. Toi, tu as répondu à cette question.
Oui, j'ai parlé d'Henri Michaud, parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert au lycée, donc assez tôt. Et quand j'ai découvert cet auteur, je me suis dit, je vais faire une thèse sur Henri Michaud. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Parce que je me suis sentie très, très proche, parce que je pense qu'Henri Michaud aussi a un rapport au monde très particulier. Et j'ai démarré une thèse que j'ai arrêtée, que j'aimerais reprendre peut-être sous forme un jour de livre, c'est la question de l'origine dans l'œuvre d'Henri Michaux, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que tout se recrée, tout se... Donc Henri Michaux m'a beaucoup interpellée sur ses façons de s'aventurer loin, ses univers, ses pays. Je vous écris d'un pays lointain, la ralentie, tout ça. Enfin, c'est des textes vraiment... C'est tellement, je sais pas, super contemporain. C'est très riche, il va dans plein d'endroits. Il a essayé les drogues, donc il va aussi dans des endroits de la folie. Oui. Qui m'interpelle beaucoup, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des gens du handicap. Je les regarde comme des gens qui auraient des choses en plus que nous, ou différentes. Enfin, voilà, je me dis, vont dans des endroits où nous, on ne va pas. Et je pense que l'acte d'écrire, l'acte créatif, est d'aller au bord, dans les frontières de ces endroits de la folie, ou de... Et on bascule pas tout à fait. Et Henri Michaux, si je relis maintenant, c'est voilà. Alors je peux pas dire fétiche parce que je suis pas.
Tu dis un auteur comme un frère.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'était très important ça parce que quand j'étais enfant, ma mère disait, les gens autour disaient, vous avez deux filles en fait. Elle en avait trois. Et elle disait, oh non mais Rosane, non mais j'en ai une, elle est dans les livres. C'était marrant comme expression. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des amis livres, des amis auteurs, comme un univers dans lequel je rentrais, ou qui rentrait en moi, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, il y avait une vraie communication que je ne savais pas faire avec les vrais gens vivants.
Oui, depuis que tu as appris.
Ouais.
Dernière question pour cette partie-là de d'autoportrait qui n'est plus d'actualité puisque c'était la question c'était est-ce qu'il y a une bonne résolution pour cette résidence à la Marelle. Donc maintenant on est un an après, donc je peux te demander si tu as réussi à tenir ces bonnes résolutions qui étaient ne plus se perdre dans Marseille, ne plus se perdre dans le monde ou alors accepter de se perdre avec un point d'interrogation. Tu triches un peu, parce que finalement, tu réponds par une autre question, mais bon. Et puis aujourd'hui, tu es venu en ayant quand même cette crainte-là de te perdre dans Marseille.
Ouais, mais du coup, j'ai beaucoup avancé sur ça, parce que du coup, le rapport au monde, il est très différent. C'est-à-dire que maintenant, je peux être beaucoup... Depuis... elle me plaît, cette réponse que j'avais faite, parce que, au fond... Comme quoi, des fois, on écrit des choses, on ne sait pas ce qu'on écrit. Je suis vraiment dans cette démarche de me dire, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je suis quand même maître... Enfin, voilà, je suis dans un truc un peu spirituel en ce moment. J'essaye de méditer, tout ça. Ouais. J'essaye. Et du coup, trouver une façon de mieux vivre dans ce regard modifié que je peux avoir sur le monde, en fait. Voilà, quelqu'un qui est en retard, quelqu'un qui annule un rendez-vous. Ça, ou j'ai une fille qui me dit, maman, quand les portes se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Je dis oui, Azilis, elle a 11 ans. Je dis oui, c'est vrai. Et c'est ce rappel-là, c'est se dire, et si on accepte, enfin, quelque chose de plus ouvert, une forme acceptée du monde, en fait, un peu comme ça, changer mon rapport. Donc, je pense que j'ai... c'est un chemin.
C'est un chemin. Bon, tu es...
je suis débarrée.
Tu es plutôt bien partie pour tenir cette bonne résolution, finalement. Alors, on va t'écouter dans un dernier extrait, une petite lecture que tu souhaitais faire également pour terminer cette revue radiophonique et puis, du coup, pour évoquer aussi quelques rendez-vous à venir prochainement.
Oui. Il y a, quand on quitte un pays, les mains qu'on cherche dans les mains des autres, les yeux qu'on cherche dans les yeux des autres. Il y a, quand on quitte un pays, l'éloignement où nous partons, l'éloignement d'où nous venons, avec nos mains, avec nos yeux, dans les yeux des autres. Il y a ce qui part de nous, et puis il y a ce qui revient, ça revient toujours, tu sais. Ça revient toujours, on ne sait quand. Alors ne t'inquiète pas, ce qui est parti parti, reviendra.
Pourquoi tu voulais lire cet extrait?
Ben parce que, en fait, j'ai commencé à faire des cycles de lecture, non pas d'extraits de mes nouvelles, enfin, c'est des extraits de mes nouvelles, mais surtout sous forme de thématiques. Mmh. Et j'en ai une. Je me suis rendu compte que dans ce recueil « Déshabiller nos solitudes », j'avais plusieurs textes qui parlaient d'exil. Et oui, que c'était à la fois une question d'exil géographique, qui était un pays et ne plus pouvoir y revenir, et comment on continue à vivre ailleurs, à se promener ailleurs, habiter ailleurs. Et à la fois, c'est un exil intérieur, et je me suis rendu compte, j'avais beaucoup, beaucoup écrit dans d'autres livres sur ça, ces questions de l'errance intérieure.
Du coup, on va pouvoir t'écouter sur cette thématique de l'exil à la librairie Bar à Vin Le Funiculaire, rue Pogioli à Marseille. Quel jour?
C'est le samedi 22 avril, de 17h à 19h. Donc, il y a une lecture et il y a un échange. Et ils ont fait tout un cycle en avril, Le Funiculaire. Je n'ai pas toutes les dates, mais dans les jours précédents, il y aura d'autres choses sur cette thématique de l'exil. Et de, voilà.
D'accord. Et il y a un autre rendez-vous aussi que tu peux nous signaler pour le mois d'avril, une autre rencontre publique?
Oui, le samedi 1er avril, moi, je vais animer avec... tu vas rien. Ça, avec l'association Le Voyage Intérieur, c'est un atelier massage et texte où je lis des textes et j'écris en direct et je relis, enfin voilà, dans un espace de massage. Donc les infos, c'est il faut taper Le Voyage Intérieur. Mmh. Et puis le dimanche 2 avril, avec l'association L'Aparté de Gardanne, avec qui je fais mes ateliers d'écriture, c'est une randonnée d'écriture famille de 14h à 17h. Donc on va dans la nature, on écrit, on lit des textes, et c'est enfants, grands-parents, enfin voilà, c'est une petite rando, on va dire. Hein.
D'accord.
Voilà, pour mes activités.
Pour tes prochaines...
mes collaborations,
j'adore. Voilà, et des prochaines occasions de te rencontrer. Merci beaucoup, Rosane Guichère. Donc, on attend la suite, même si on peut aujourd'hui, parce que quand même, tu viens de sortir ce recueil de nouvelles « Déshabiller nos solitudes » aux éditions Sulliver. Donc là, on a quand même des choses à se mettre sous la dent, à lire, pour ceux qui ne pourraient pas venir à ces rencontres publiques. Le prochain invité de la première chose que je peux vous dire, ça sera Joseph Safieddine, qui est un scénariste de bande dessinée franco-libanais, qui va être en résidence au mois d'avril et mai. Et à l'occasion de cette émission, il va inviter aussi Christophe Dabitch, qui est scénariste également, mais aussi romancier, essayiste, qui s'intéresse particulièrement au Proche-Orient. Voilà, c'est le prochain invité de l'émission. Merci beaucoup, Rosane, à bientôt.
Merci, Pascal.
Esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas.
La première chose que je peux vous dire est une revue, radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de « La vie devant soi », le roman de Romain Gary et Émile Ajar. Production, Radio Grenouille et La Marelle. Présentation, Pascal Jourdana. Voix, Manon et Violette. Suivi de production, Fanny Pomerède, La Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille. À la technique, Jean-Baptiste Imbert.
Otros accesos salon no quotidiano.
La Marelle est une structure hébergée à la friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.